Hello, beautifuls! Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accréditée Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève. Que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga et aux cours d'anatomie ludique et appliquée à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Meta Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz, en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Épisode 116 avec Mayana Dio. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Mon invité d'aujourd'hui est professeur de yoga spécialisé en thérapie émotionnelle. Mayana Dio, mieux connue sous le nom de Mayana Yoga sur les réseaux sociaux, t'aide à améliorer ta gestion émotionnelle et ta relation à toi-même pour te sentir bien au quotidien. Anciennement infirmière, travaillant auprès de personnes souffrant de dépression, burn-out et syndrome post-traumatique, elle a découvert dans le yoga énergétique un ensemble d'outils parfaitement adaptés à l'amélioration de notre gestion émotionnelle. Elle s'est spécialisée en yoga thérapie émotionnelle grâce à différentes formations, comme le Tantra Hatha Yoga, le Yin, les méridiens chinois, le Yoga Nidra, la méditation. Sa mission, aider chacun à gagner en autonomie dans l'amélioration de la relation à soi et dans l'apaisement du mental. Mayana nous explique comment mieux gérer nos émotions, comment mettre en place une sadhana et qu'est-ce qu'une sadhana. On parle de discipline et elle nous explique comment mettre en place des habitudes durables. On parle également d'attachement à des identités. Mayana nous explique également ce qu'est le Tantra Hatha Yoga et l'énergie. Elle nous parle également de gestion du stress pour mieux gérer celui-ci. Et surtout les amis, restez jusqu'à la fin de l'épisode parce que Mayana nous emmène dans une méditation. Elle est absolument extraordinaire, j'ai reçu plein de messages et senti des choses assez folles pendant cette méditation, donc je vous invite à trouver un coin au calme pour pouvoir la pratiquer. Mayana est également autrice d'un livre qui s'appelle « Yoga anti-stress » qui te permet de découvrir les origines personnelles de ton stress et de comment le yoga émotionnel peut t'aider à te sentir plus apaisé au quotidien. Pour retrouver Mayana, ses programmes, son livre, rendez-vous sur son site internet mayanayoga.com. Vous pouvez aussi aller la suivre sur les réseaux sociaux Mayana Yoga. Je te laisse sans plus tarder avec notre conversation et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue, Mayana, sur le podcast.
Merci beaucoup, Anouk, de me recevoir ici. Je suis très honorée d'être là.
Bon, c'est aussi toi qui me reçois chez toi, puisqu'on enregistre cet épisode dans ton petit cocon. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. C'est super agréable. Et comme tu l'as dit juste avant qu'on se rencontre, même si, voilà, on se suit sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fluide dans nos échanges qui est hyper agréable. Et je suis vraiment ravie de te rencontrer pour la première fois en vrai.
Ah ben c'est exactement pareil pour moi, j'ai l'impression de te connaître depuis le temps que je te suis sur les réseaux et en plus quand tu m'as contactée pour le podcast, j'étais ravie parce que j'apprécie vraiment le travail que tu fais, je trouve que c'est très qualitatif, original et teinté vraiment de ta personnalité et voilà, c'est des choses parfois que je trouve qui manquent et donc ça me touche que tu m'aies contactée et d'être là aujourd'hui.
Eh bien, compliment vraiment retourné. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Mayana, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es ? Une de tes spécialités aussi, c'est la thérapie émotionnelle. Est-ce que tu peux également nous expliquer ce que cela implique ?
Eh bien, donc, je m'appelle Mayana, c'est mon vrai prénom déjà, parce que certaines personnes pensent que c'est un placebo.
Un surnom ?
Attends, il y a... Ouais, un surnom. Mince, tu sais, un truc commercial. Bon, bref, certains pensent que voilà, c'est mon nom de marque, on va dire.
Ok, c'est un vrai nom.
Et c'est un vrai prénom, voilà, qui d'ailleurs, à la base, vient du Pays Basque. Et bref, tout ça pour dire que je suis professeure de yoga depuis maintenant, je crois, 6 ans. En fait, le yoga maintenant que je propose, qui a évolué à travers les années, se base vraiment donc sur la thérapie émotionnelle, c'est-à-dire... Alors en France, des fois, le mot thérapie, il faut faire attention comment on l'utilise. Hein. C'est généralement pour des thérapeutes certifiés, mais dans l'essence du mot thérapie, c'est vraiment l'idée d'apporter du soin, d'apporter de l'apaisement, du soulagement à des personnes qui peuvent avoir des déséquilibres, des souffrances physiques, mentales ou émotionnelles. Donc mon yoga s'est progressivement tourné vers cette voie-là de proposer un accompagnement émotionnel à travers différentes techniques. Donc pour ça, j'utilise des techniques assez ancestrales sur lesquelles se base le yoga, comme la médecine indienne, la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi tout ce qui est science un peu plus moderne au niveau psychologie cognitivo-comportementale, tout ce qui est relié au système nerveux, à la traumatologie, et également tout ce qui va être relié au tantra hatha yoga, qui est la science de l'énergie des postures. Et donc l'idée, c'est d'avoir tout un panel de méthodes efficaces, qui ont prouvé leur efficacité à travers les millénaires, pour apporter une vraie solution d'accueil des émotions et même de traitement, en fait, du corps émotionnel, du corps de souffrance, de toute la mémoire corporelle émotionnelle que tout le monde a et qui va vraiment avoir un impact profond sur notre inconscient, en fait, et sur nos choix de vie, sur notre manière de vivre au quotidien.
Et concrètement, comment est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu travailles en individuel ? Est-ce que tu travailles avec le groupe ?
Alors, je travaille avec différents professionnels. D'ailleurs, au centre que j'ai créé, le Live Studio, il y a plusieurs professionnels. En fait, l'idée, c'est de faire un peu une équipe pluridisciplinaire. Donc, il va y avoir autant des naturopathes que des professionnels, des thérapeutes de médecine traditionnelle chinoise. Je travaille aussi avec des consultants en médecine ayurvédique. Entre autres, pour les programmes en ligne, par exemple, il y a toujours aussi des consultations individuelles. Donc, il y a toujours, en fait, cette triade, yoga, médecine traditionnelle chinoise et médecine traditionnelle indienne. Je travaille aussi des fois avec des psychologues. Et après, d'un point de vue un peu plus concret, sur les cours qu'il va y avoir au studio ou les cours que je fais en individuel, il y a toujours cette trame, même dans les retraites, dans absolument tout, en fait, il y a toujours cette trame émotionnelle constante. Et je vais utiliser autant de la philosophie du yoga que, en fait, des postures qui travaillent sur des méridiens particuliers pour travailler des émotions comme la colère, la tristesse, le doute, la joie. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup enseigner le sens des postures. À chaque cours, j'explique en fait pourquoi les gens font ça, à quoi ça leur sert vraiment, pour qu'ils se les approprient et qu'ils puissent y trouver du sens et devenir aussi un peu plus autonomes dans leur propre guérison.
Et alors, j'ai appris que tu as un passé d'infirmière.
Oui.
Aujourd'hui, tu es au final toujours dans ce soin et finalement un accompagnement qui reste profond avec différents outils. Pourquoi est-ce que tu es passée d'infirmière à cet accompagnement-là avec de nouvelles méthodes, de nouveaux outils ? Et pourquoi t'être spécialisée encore plus dans l'accompagnement émotionnel ? Est-ce que tu as vu une corrélation entre finalement le mal-être et les maladies que tu voyais, que tu as accompagnées en fait avec les émotions ?
C'est complètement ça. J'ai toujours voulu être utile. Depuis petite, je veux aider la planète à guérir. Donc au début, je voulais plutôt guérir les animaux, la nature. En tout cas, la protéger. Et je me suis rendu compte dans mon parcours qu'au final, c'était surtout les humains que je devais aider à guérir pour qu'eux-mêmes protègent la Terre. Et quand j'étais infirmière, à la base parce que je voulais faire l'humanitaire, etc., je me suis rendu compte, en effet, j'étais assez frustrée en fait. J'avais pas l'impression d'aller au bout de la guérison. J'ai l'impression de vraiment faire du camouflage. T'as mal à la tête, je te donne un doliprane. T'as mal au ventre, je te donne un antispasmodique. Enfin bref, c'était vraiment, t'as un symptôme, je le camoufle et puis il reviendra et je le recamouflerai jusqu'à ce qu'il y ait une pathologie plus grave et que là ça nécessite une chirurgie, etc. Et la personne revient des années plus tard parce qu'il y a une récidive, parce qu'au fond on n'a pas traité l'origine de tout ça. Et c'est vrai que dans le yoga j'y ai trouvé... Enfin, quand je dis ça, je déprécie pas du tout la médecine moderne. Je pense que les deux sont très complémentaires. Et heureusement qu'on a nos chirurgies modernes et toutes nos chimios, etc. Bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte, en effet, que la source du déséquilibre de la santé, du physique, c'était au final un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre énergétique. Et c'est pour ça que même dans le yoga, au début, j'étais un peu frustrée. J'y trouvais pas ce que j'étais venue y chercher. Je voyais que des postures. Je voyais encore un côté très anatomique. Ok, on va ouvrir les hanches. Ok, on va travailler sur le dos, sur votre psoas, etc. Mais ouais, c'est super bien de les tirer. Mais si je comprends pas ce qui cause à chaque fois les contractions, le déséquilibre physique, eh bien, je vais jamais en venir à bout, en fait. Donc en fait, à travers toutes les formations que j'ai faites, j'ai progressivement vraiment plongé dans ce yoga émotionnel. Et puis je pense qu'il a été vraiment le déclencheur, c'est quand j'ai travaillé en psychiatrie, en tant qu'infirmière, où en fait là c'était majoritairement de la thérapie cognitivo-comportementale, donc on travaillait autant avec le corps qu'avec l'esprit, mais il n'y avait plus d'actes corporels, j'étais plus en train de faire des piqûres ou des choses comme ça. J'étais vraiment en train d'aider les gens parce que j'allais leur dire, parce que j'allais leur faire faire, à quel point j'allais éventuellement les aider à changer de point de vue, ou les inspirer, ou les éduquer. Et ça m'a transformée en fait. J'ai adoré, j'avais 20 piges, hein. Je devais avoir 23 ans, et de voir que des fois, en disant juste un mot, il y avait quelque chose qui passait, il y avait une transmission en fait. Et donc voilà, je me suis rendu compte que déjà j'aimais l'enseignement vraiment profondément, que j'aimais soigner l'émotion, et que c'est ce qui me touchait le plus, que j'étais énormément touchée par les gens qui souffraient avec leur relation à eux, qui souffraient, qui étaient étouffés dans leurs émotions, et que ça me... Enfin, c'était vraiment mon call, quoi. C'était mon appel, c'était là où je devais aller.
Est-ce que tu peux nous parler justement des émotions, puisque tu travailles beaucoup avec les émotions? Qu'est-ce que tu vois chez les gens qui est difficile en termes de gestion des émotions? Et comment est-ce que les thérapies avec lesquelles tu travailles accompagnent les gens?
Alors les émotions, c'est vraiment, ça pourrait mériter tout un podcast, hein. C'est la gestion émotionnelle, c'est quelque chose qui s'apprend, et on a été beaucoup poussé à travailler notre intellectualité et à camoufler nos émotions pour des raisons sociales, etc. Et au final, à l'heure actuelle, majoritairement les gens, en tout cas qui viennent à mes cours, souffrent de stress, entre autres même souvent sans s'en rendre compte aussi de stress post-traumatique, de stress chronique, où leur corps a accumulé du stress constant et maintenant, même quand ils pourraient être au repos, ils n'y arrivent pas. Donc il y a vraiment une sorte de cocotte-minute émotionnelle qui s'est enclenchée, où tout devient hypersensible. Et les personnes se sentent démunies, vulnérables, face à toutes leurs émotions, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, et même parfois de la joie, car quand ils éprouvent de la joie, ils ont peur qu'elle disparaisse. Donc en fait, c'est vraiment une rééducation globale à ce qui se passe, et ne plus avoir peur des émotions. Il y a vraiment un peu cette dissociation un peu générale, où on vient se distraire constamment pour pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ou même on le voit dans le yoga qui est censé nous aider à faire de l'introspection, au final on se distrait avec une multitude de postures qui s'enchaînent, on n'a même pas le temps de ressentir ce qui se passe en nous, il y a de la musique à fond, on est en train de faire un Warrior 1, Warrior 2 sur du Coldplay et à la fin on est content. Et c'est super chouette, hein, je dis pas, c'est hyper ludique et tout. Mais il y a un moment où voilà, si on finit par craquer uniquement dans son Shavasana, c'est justement parce qu'on a besoin de ces espaces de silence, on a besoin de postures pour accueillir ça. Donc oui, à l'heure actuelle, la question émotionnelle est primordiale et c'est magique parce que tout le monde commence à s'y intéresser avec tout ce qui est communication aussi non violente, etc. Il y a plein de choses qui existent. Et je suis contente que le yoga aussi commence vraiment aussi à s'ouvrir, enfin se réouvrir à ça en fait.
Trop bien. J'adore cette thématique des émotions parce que comme tu dis, je trouve que c'est un monde qui est encore si peu exploré et pourtant qui est tellement important pour la relation à soi, pour la relation aux autres. Et on parle d'intelligence émotionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, cette intelligence émotionnelle dans notre vie?
Je pense que ça peut nous apporter, en final, tout ce qu'on souhaite. Car à chaque fois qu'on est agressif envers quelqu'un, tout ce qu'on voit éventuellement aux infos, où on a l'impression que toute la planète est dérangée, agressive, etc., c'est juste un manque de discernement de ce qui se passe en nous et de pourquoi ça se passe et quels sont nos besoins réels. Et du coup, il y a plein de projections, d'interprétations, de clivages, de séparations, alors qu'on vit tous la même chose. On veut tous éviter la souffrance, on veut tous être heureux. Et du coup, moi en tout cas, je le remarque déjà juste pour parler de moi, que au mieux j'ai conscience de mes émotions, au mieux tout est en fait. Mes intentions sont mieux posées, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je suis en couple, je sais qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux aller chercher à recevoir dans ma vie. Et en fait, tout finit par s'aligner. Et du coup, je pense aussi que beaucoup des émotions qui nous submergent, si on arrive à les écouter, sont majoritairement une guidance du corps qui nous dit... Si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si ça sonne pas juste pour toi, vois qu'est-ce qui est aligné en fait. Tourne la tête, regarde autre part. Donc c'est... Je pense que voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est au final une intelligence du corps, une intelligence même de son intuition, une intelligence globale et plus que nécessaire à l'heure d'aujourd'hui.
J'ai eu plein de frissons. Ouais, j'adore. En termes d'outils, tu parles beaucoup de la sadhana. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la sadhana? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie par rapport aussi à ce qu'on vient de parler?
Alors la sadhana, en fait, en yoga, c'est... on pourrait le traduire par la routine de vie que va avoir quelqu'un pour atteindre ses objectifs. Donc pour un yogi, sa sadhana, ça va être toutes les petites routines qu'il va avoir, autant d'hygiène de vie, d'alimentation, de respiration, de pratique posturale, de méditation, en gros tout ce qu'il va mettre en place pour atteindre l'éveil spirituel, l'union avec le divin, car voilà, faut remettre aussi dans le contexte, le yoga c'est pas des postures à la base, c'est vraiment un aspect spirituel et une connexion à notre âme, etc. Et donc par exemple, pour quelqu'un qui est un grand sportif, sa sadhana à lui, sa routine de vie, ça va être plutôt de s'entraîner. Et un grand musicien, ça va être voilà, de pratiquer son instrument. Donc Gandhi, dans sa sadhana, il y avait la méditation. Mais par exemple, pour un boxeur, voilà, ça va pas être la même sadhana. C'est vraiment l'engagement qu'on va avoir envers ce qu'on va appeler son dharma en yoga, c'est-à-dire sa mission de vie, ce qui nous appelle, ce qui nous anime, ce qu'on est censé partager au monde. Et qu'est-ce qu'on met vraiment en place pour honorer ça? Et donc, une sadhana pour un yogi, voilà, ça va être... Traditionnellement, c'est une pratique spirituelle qui va se dérouler 2 heures avant le lever du soleil, qui va être si possible complète et adaptée à ses besoins, à ce qu'il a besoin de travailler. Car chacun a pas, chacun a, on va dire, sa... Une sadhana, ça a besoin d'être spécifique et personnel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on peut avoir et c'est génial, hein, on peut avoir accès à énormément de choses gratuites, énormément de contenu de yoga, et on pourrait très bien pratiquer toute sa vie en se levant le matin, buvant un petit jus de citron, aller faire sa salutation au soleil, etc. Et en fait, selon ces déséquilibres, c'est pas toujours utile, voire même des fois ça peut être délétère. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, en général, la sadhana est offerte par un professeur à son disciple pour lui montrer, par rapport à ce qu'il a besoin, comme en fonction de ses problématiques physiques, émotionnelles, mentales, ok, toi il te faudrait ce type de respiration, ce type de posture, ce type de méditation, ce type de mantra, etc. pour que tu puisses aller vers ton dharma, vers ta mission à toi.
Génial, merci pour cette réponse. C'est vraiment hyper chouette la façon dont tu arrives à reprendre toute la philosophie yogique et à la mettre en lumière de manière simple pour les gens. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile pour nous parfois de rencontrer un gourou ou un grand professeur qui peut nous donner une sadhana particulière. Il y en a quelques-uns en France, bien sûr, et parfois il y a des gens qui vont à l'étranger pour rencontrer ces grands professeurs. Je pense à une personne qui nous écoute et qui aimerait trouver son dharma, qui aimerait trouver sa mission de vie, qui aimerait s'épanouir plus, être plus en contrôle de ses émotions. Par quoi est-ce qu'elle peut commencer déjà, elle, chez elle? Quels sont les outils qu'elles peuvent mettre en place, peut-être les petits rituels qu'elles peuvent faire pour s'orienter?
Alors ça, c'est une question un peu difficile, parce que ça va dépendre en fait. Le truc de la sadhana, c'est que vu que c'est très personnel, il n'y a pas de petite astuce de 5 clés pour avoir sa sadhana, etc. C'est un peu d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens se jugent de ne pas réussir à maintenir une routine, parce qu'on a plein de petites idées de comment avoir une discipline, etc., avoir sa fameuse routine où on boit son petit thé matcha au lever du soleil. Enfin, tout le monde rêve d'avoir sa routine matinale qui nous met bien, sa petite vie parfaite. Mais le truc, c'est que c'est tellement, tellement personnel. Moi, par exemple, tout le programme que je fais autour de la sadhana, moment-là, ça dure 10 semaines, parce qu'il faut savoir exactement quelle est la constitution de la personne au niveau Ayurveda, il faut savoir exactement quel méridien elle a besoin de travailler, il faut savoir exactement quelle est sa vision et donc vers où elle veut aller avec sa sadhana. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses à connaître. En plus, si la personne a éventuellement un passé traumatique, dont des fois les gens n'ont pas conscience, hein. Des fois les gens sont juste stressés et avec plein d'émotions très réactionnelles, et ils n'arrêtent pas de se juger parce qu'ils ont beau de faire du développement personnel, ils se disent mais je suis toujours en colère, je réagis toujours à la critique, je suis toujours stressée, c'est quoi mon problème? Ben c'est juste qu'en fait t'as ton corps traumatique qui est là, qui constamment montre à ton inconscient que t'es pas en sécurité. Et donc dire à quelqu'un ok, juste assois-toi, respire, médite, mais en fait pour certaines personnes c'est pas du tout possible, ça peut déclencher une crise d'angoisse. Enfin, il y a tout un accompagnement qui peut être nécessaire. Après, il y a des choses qui peuvent être utiles un peu pour tout le monde. Si on veut mettre en place une sadhana, on peut déjà observer dans sa vie qu'est-ce qu'on aime faire. Qu'est-ce qu'on aime vraiment faire? Qu'est-ce qui nous ressource? S'il n'y a personne qui nous dit quoi faire, s'il n'y a pas aucun enjeu particulier, qu'est-ce que naturellement, si j'avais tout le temps du monde et tout l'argent du monde, j'aimerais faire? Et ça, ça va vraiment parler des valeurs profondes de la personne. Ce qui va l'animer, le rendre euphorique, le tenir éveillé, ou lui donner envie de se réveiller, ça va vraiment naturellement guider un petit peu. Et donc si on veut déjà commencer par une sadhana, ça peut être aussi même de la lecture. La sadhana à la base, c'est tout ce qui peut nous amener entre autres à l'éveil, donc une lecture d'un texte sacré ou de quelque chose qui nous fait réfléchir, avoir une auto-réflexion. Tout ça, ça va être bon. Donc une sadhana, ça peut être très bien, je me lève le matin, je lis un bon livre, je ressens à l'intérieur comment ça va, je prends une respiration, ça peut être juste ça. Mais après c'est vrai que dès qu'on veut aller un peu plus loin sur une partie posturale, respiratoire, méditative, eh bien, ça va vraiment dépendre de chacun.
Et du coup, parle-nous de cet accompagnement, toi, que tu fais vers la sadhana.
En fait, avant, j'accompagnais les gens en individuel sur leur sadhana. Et en fait, je voyais qu'il manquait quelque chose. Que c'était très bien de donner aux gens tout ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais au fond, le problème de créer une sadhana, c'est pas vraiment de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est tout le mindset qu'il y a vraiment autour de prendre ce temps pour soi et de le maintenir dans le temps, cet engagement vers soi. Donc ça parle vraiment aussi de croyances limitantes, d'identité, d'optimisation, de planification, etc. Et donc en gros, petit à petit, j'ai créé tout un programme qui résume en fait beaucoup de mes connaissances en yoga émotionnel. Donc on va parler autant du tantra hatha yoga que des méridiens. Donc en gros, ça se passe donc sur 10 semaines. Il y a un groupe d'une dizaine de personnes pour créer la communauté. Et ils vont avoir chacun un rendez-vous individuel avec un consultant ayurvédique pour déterminer leur constitution de naissance et leur déséquilibre actuel. Ils vont avoir donc une consultation avec un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour voir leurs éventuels déséquilibres au niveau énergétique chinoise. Ils vont avoir une consultation avec moi où on vient définir avec des outils entre autres de PNL, etc. On vient définir un peu plus précisément leur vision, leur pourquoi. On vient voir aussi tout l'aspect un peu plus traumatique. Et il y a dans tout ce programme toute une éducation par des vidéos qui sont là constamment et des lives, 5 lives où on se retrouve pour aller un peu plus en profondeur. Et dans ces vidéos éducatives, voilà, je viens en fait leur apporter les outils pour qu'eux-mêmes puissent construire leur sadhana en fonction de leur vie. Parce que c'est bien beau donner quelque chose à quelqu'un, mais il va forcément changer. Et s'il n'a pas la connaissance, il ne va pas pouvoir savoir quoi faire si un jour il est dans une colère monstrueuse, si un jour il est dans un deuil qui le plombe. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir, ok, moi j'ai en général des problèmes de stress, des problèmes d'insomnie, des problèmes de digestion, ok, mon système nerveux il a besoin d'être régulé, qu'est-ce que je dois faire? J'ai plutôt des problèmes d'apathie, de dépression, de burn-out, j'ai aucune vitalité, j'ai plus de motivation, je suis dans le doute, qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment redonner du sens et redonner du pouvoir aussi aux élèves, parce qu'à la base, c'est vraiment ce que moi j'ai compris qu'un professeur pouvait offrir, c'est offrir une vraie connaissance. Et que les personnes ne soient pas dépendantes d'un enseignement dans un studio, dans une application, qui puissent eux-mêmes progressivement agir dans leur propre guérison, en fait. Pas avoir besoin tout le temps de payer quelqu'un à l'extérieur pour s'offrir ça, et surtout avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, parce que l'autodiagnostic, etc., ça demande une certaine expertise de soi. Donc voilà, et en gros, les 10 personnes créent vraiment une communauté, il y a un petit ange gardien, etc. Chacun va se suivre pendant les 21 jours de sadhana à la fin du programme, où tous ensemble, on part dans notre pratique qui est donc individualisée. Donc les gens créent leur pratique, je viens la corriger, on vient voir ensemble exactement ce qu'il faut. Et voilà, ils font 21 jours de sadhana. Et j'en ai, ça fait 300 jours qu'ils font leur sadhana. Ils s'offrent des petits cadeaux, enfin bref, c'est super... Enfin, j'ai essayé d'y mettre tous les ingrédients, autant du mindset, etc., pour expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas forcément à changer, comment est-ce qu'on crée une habitude, quel est l'intérêt de créer une habitude, etc. On vient travailler aussi sur tout ça, donc c'est vraiment, enfin là, c'est, moi ça a été un travail de fou de créer ça. Et dedans, il y a aussi des vidéos avec les thérapeutes justement en médecine ayurvédique, en médecine chinoise. Je suis pas toute seule dans le programme à proposer le contenu éducatif. Voilà, c'est un petit peu tout ça.
Waouh, ça a l'air fantastique.
Merci.
J'aime vraiment l'approche personnalisée aussi, qui, tu le dis, en fait, est hyper importante si on veut faire les choses bien et de manière profonde et qui nous bénéficie réellement.
Oui, et c'est assez magique parce que là, je me rends compte, donc là, j'ai sorti la première session de Sadhana, là, on fait ce podcast, donc on est en octobre 2023, donc là, on est sur la fin de la première session, et le groupe de 10 personnes, et c'est comme dans les retraites d'ailleurs, ont des thématiques émotionnelles très similaires, des traumas très similaires. Et du coup, c'est magnifique parce que ça crée une cohésion tellement belle. Les gens se sentent moins seuls et comprennent qu'en fait, voilà, y a un chemin de guérison parce qu'il y a aussi d'autres personnes inspirantes dans ce groupe-là qui ont réussi à se transformer à travers les épreuves. Et enfin, franchement, c'est magique et moi, ça me fait un bien fou d'être aussi un peu plus proche des gens, d'être vraiment dans leur intimité parce que là, on est vraiment dans le partage de choses très personnelles. Et j'adore en fait. J'adore parce qu'en cours de yoga, voilà, les gens viennent, les gens repartent. Et je pensais au début que ça me plairait parce que je pense que j'étais assez rincée en fait de ce que j'avais fait en tant qu'infirmière. Et de, voilà, des fois, les histoires des vies des gens sont assez lourdes, donc c'était aussi assez énergivore. Mais là, je suis tellement contente de retourner aussi à ça. De retourner à... J'ai vraiment un lien avec chacun d'eux. Et chacun d'eux ont un lien, il y a un vrai sens de communauté et... En tout cas, pour moi, c'est ma pépite. C'est vraiment... Je l'ai fait tellement avec le cœur, avec tout ce que moi, j'aurais aimé trouver. Parce que moi, la Sadhana, ça a été tout un truc. Que voilà, du coup, je suis vraiment heureuse d'être venue à bout de la création de ça.
Tu l'as brièvement mentionné, mais j'aimerais qu'on parle de cette discipline et des habitudes qu'on arrive ou pas à mettre en place. Qu'est-ce qui bloque, en fait? Parce que moi, je connais plein de gens qui ont envie de mettre en place que ce soit une routine matinale et en fait, qui tiennent quelques jours et après, qui abandonnent. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette discipline?
Alors déjà, c'est intéressant de recadrer un peu le mot discipline. Parce que maintenant, le mot discipline, il y a un peu cette idée que c'est une certaine rigueur, qu'on respecte des normes, qu'on respecte un cadre. Et pour beaucoup de personnes, la discipline, du coup, c'est un peu à l'inverse de la liberté. Donc si jamais on est comme moi et qu'on a pour principale valeur la liberté, c'est très compliqué dans ces cas-là de se croire discipliné. Alors qu'en fait, la discipline aussi, dans l'origine un peu, dans l'étymologie un peu latine, c'est tout ce qui est instruction, formation, éducation et même enseignement. Donc on pourrait voir un petit peu ça à Sadhana comme... À quel point je m'auto-instruis en fait? Qu'est-ce que je viens m'apporter de plus? Et ce qui se passe au niveau des habitudes, c'est que souvent on crée de mauvaises habitudes. On crée des habitudes très impersonnelles qu'on a vues sur les réseaux sociaux, qu'on a lues dans un livre. On sait que ça pourrait faire du bien, mais clairement on n'est pas vraiment vraiment sûr. Et en plus, on a l'envie d'avoir des résultats immédiats. Et souvent les gens se découragent avant de recevoir le résultat. Car avec toutes les habitudes, déjà souvent on en crée des trop grosses. On veut faire souvent du noir ou blanc, donc c'est tout ou rien. Et on est très perfectionniste, donc si on n'y arrive pas bien directement, on se décourage, on a l'impression d'être nul, on se dévalorise. Donc l'ennemi numéro un de la création d'habitude, c'est l'autodépréciation, le jugement de soi. Donc clairement, le mieux c'est encore de faire des tout petits pas, se dire, moi ça m'avait beaucoup aidé ça, de me dire, je fais une marge d'amélioration d'1%. Dans n'importe quoi en fait. Est-ce que je peux améliorer d'1% ma manière de communiquer dans mon couple? Est-ce que je peux améliorer d'1% aujourd'hui le choix de ce que j'ai mangé, etc. Et en fait... ça amorce le premier pas. Et valoriser, 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 valoriser. À chaque fois que le 1% est fait, valoriser. Et même si à la base on s'est dit « Ok, je vais méditer 5 minutes tous les matins », on se dit « C'est clairement gérable 5 minutes » et qu'en fait on n'y arrive pas, eh bien on peut se dire « Ok, ça serait quoi juste d'amorcer les deux premières minutes ou de faire juste 1% ?» Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait peut-être juste de fermer les yeux et de sentir une seule respiration. Et en fait, du moment qu'on fait ça, on a enclenché le pas et c'est beaucoup plus facile de le faire. Après, le plus gros frein aux habitudes, au fond, c'est du mindset. C'est vraiment l'état d'esprit, car si on a le bon état d'esprit, tout peut se faire, quel que soit l'environnement, quelle que soit la planification, etc. Il y a entre autres une professeure dans le coin qui est assez connue, qui, en tout cas dans les Landes, qui a une discipline incroyable. Elle est maman, elle a un studio à gérer et il n'y a aucun problème, elle fait sa pratique tous les matins, il n'y a pas de « j'ai pas le temps » ou quoi que ce soit. Ce qui va vraiment motiver à avoir une sadhana, c'est notre pourquoi. Et souvent, les gens, ils savent pas pourquoi ils font une sadhana. Ils savent qu'ils veulent changer quelque chose. Ils savent qu'ils veulent plus, qu'ils veulent quelque chose de différent, qu'ils veulent changer leur état interne, mais ils savent pas comment le faire. Donc ça, c'est un gros frein. Quand au final, on se dit, ok, je vais faire une pratique, mais qu'est-ce que je fais? Ok, je mets une vidéo là sur YouTube, mais bon, voilà, si jamais ça n'a pas été très concluant, est-ce que je la répète ou pas? Donc voilà, savoir exactement ce qu'on doit faire, c'est très rassurant d'avoir ce cadre-là. Se valoriser, faire des petits pas. Commencer éventuellement, non pas par une pratique de 20 minutes ou une heure, mais juste 5 minutes. Faire des choses au début qui nous plaisent, pour avoir de la récompense immédiate. Et se rappeler que toutes les habitudes, il n'y a pas de petites habitudes en fait, toutes les petites habitudes vont créer quelque chose, elles vont s'agglutiner pour créer notre succès futur. Donc, c'est un peu l'analogie du glaçon, c'est l'histoire d'un petit glaçon. Imagine, voilà, tu as un glaçon sur cette table-là, dans une salle où il fait moins 6 degrés et tu veux faire fondre ce glaçon. Bon, ta seule option, ça va être d'augmenter la température ambiante et tu peux augmenter que de 0,5 à chaque fois. Donc, t'augmentes, et tu vas répéter ça plusieurs fois sans aucun succès. Et si tu sais pas dans ta tête qu'à partir de 0 ou 0,5, il y aura enfin quelque chose qui va se passer, que le glaçon va enfin fondre, eh bien, il y aurait de grandes chances que tu abandonnes avant. Tu dis, mais en fait, ça sert à rien cette action. Tu fais 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et tu dis, bon. Alors que justement, pour toutes les habitudes, même les plus petites, eh bien, il y a un seuil critique de changement. Et souvent, la majorité des gens abandonnent avant ça. C'est un peu comme si tu voudrais te mettre à courir et puis tu vois aucun résultat au bout d'un mois sur ton corps, sur tes capacités physiques. Du coup, tu t'arrêtes, tu te décourages. Et ce qui, au contraire, pourrait t'amener à devenir un vrai coureur, c'est de continuer. De continuer un petit peu et juste de valoriser à chaque fois que tu l'as fait, juste pour le plaisir d'avoir fait l'action. Et même de se détacher de l'objectif, en fait. Parce que si juste tu fais l'action, tu l'auras cet objectif. Et ce que l'habitude peut faire de plus puissant, c'est vraiment, finalement, de transformer progressivement qui l'on est. Car quand on regarde nos habitudes, on peut assez vite voir en fait qui on pense être. Et dans le changement d'habitude, il y a au final un vrai changement même de personnalité. C'est-à-dire que moi personnellement, je suis diagnostiquée TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc clairement, pour moi, tout ce qui était discipline, tout ce qui était routine, etc., ça me semblait impossible. Même rester dans une posture quelques minutes, ça me semblait impossible. Et parce que je me collais aussi cette étiquette qu'on m'avait collée. Et donc il y a vraiment aussi... Au fur et à mesure qu'on fait des tout petites habitudes où on se valorise, on commence progressivement à accumuler des preuves qu'on est un peu différent que ce qu'on a cru jusqu'à présent. On a cru qu'on n'était pas organisé, et puis en fait, on a commencé à avoir des petites habitudes de rangement. On a cru qu'on était nul avec l'argent, et puis on a commencé à avoir des petites habitudes d'économie. Et en fait, année après année, et du coup, les résultats se voient souvent sur plus des mois ou des années que vraiment sur des semaines, donc c'est pour ça que souvent les gens se découragent. Et là, en fait, tout d'un coup, j'associe l'habitude à une identité. Et c'est là où il y a vraiment la transformation qui se passe. C'est que tant que je suis persuadée, je crois profondément que j'ai aucune motivation, qu'à chaque fois que je mets quelque chose en place, je le tiens que très peu de temps, eh bien, ça va être vrai, en fait. Tout ce que je crois est vrai. Donc si je crois que je suis géniale, que je peux tout réussir, que je vais m'accorder ce temps-là, ça va vraiment se faire. Et la notion aussi... de l'habitude, je pense que d'où elle tient sa source est hyper important. On parlait du pourquoi. Quelqu'un qui est vraiment dans un... Enfin, en gros, il y a deux raisons pourquoi on fait les choses. La première, c'est souvent la souffrance. En fait, je souffre, j'ai plus envie de ça, je veux autre chose. Et la deuxième, c'est la motivation dans la vision. J'ai une vision pour moi et je veux l'atteindre. Et souvent, je remarque que ceux qui ont les sadhanas les plus aboutis et les tenus le plus longtemps, c'est des personnes qui ont assez souffert pour être vraiment motivées, pour se dire en fait, j'en veux plus de mes crises d'angoisse, je veux plus de ces relations de merde, je veux plus me regarder dans la glace et me détester, je veux plus tout ça en fait, c'est fini, je suis arrivée à un point de ma vie où ça, je dis non, c'est mort, j'arrête, je change. Et donc il y a cette combinaison un peu de la souffrance qui amène à cette vision aussi. Et ce qui va aider à créer cette habitude, c'est voilà, avoir vraiment conscience de tout ce qu'on veut plus, avoir vraiment conscience de ce qu'on veut, et de se rendre compte que sa sadhana, c'est le moyen le plus efficace pour y arriver. Mais pour ça, il faut que sa sadhana le soit vraiment, en fait. Il faut qu'elle amène vraiment ça, en fait. Et là, du coup, il y a du sens. Là, il y a de la motivation. Et s'il y a le soutien d'un groupe, s'il y a de l'engagement, tout ça, ça va aider. Et si on travaille vraiment sur les croyances limitantes, sur tout ce qu'on pense être, petit à petit, à la fois travailler sur ses pensées limitantes et à la fois incorporer des habitudes qui contredisent ses pensées, ça va vraiment shifter complètement la personne. Quelqu'un qui dit « je suis pas organisé » et qui, tous les matins, finalement, 1% de rangement, il finit juste par ranger son bureau, puis en fait, toute sa maison, etc. Au bout des années, il se croit alors un peu plus organisé, ou en tout cas, il a un intérieur, on va dire, harmonieux. Eh bien, il va de plus en plus être fier de cette nouvelle qualité qu'il a, et plus on est fier de quelque chose chez soi, plus on le fait sans effort. C'est vraiment pour ça que, par exemple, quelqu'un qui est très fier de son business va avoir plein d'habitudes autour de son business. Quelqu'un qui est super fier, je sais pas, de son corps va avoir plein d'habitudes pour maintenir ce corps. Et quelqu'un qui est super fier de son auto-guérison, du soin qu'il s'apporte, de l'amour qu'il est en train de créer avec lui, qui est super fier, en fait, d'avoir cette capacité à prendre un temps pour lui tous les jours, voilà, ça sera beaucoup plus facile de le maintenir que si c'est sur de la honte, du perfectionnisme, de la culpabilisation, en mode « t'es pas assez bien », vas-y, médite parce que clairement ta vie c'est pourri. Faut que tu fasses. Enfin, voilà, c'est vraiment un shift de relation à soi. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je me déteste et du coup je me flagelle même avec une discipline hyper stricte? C'est vraiment ce rapport à soi qui va être déterminant en fait. Bon, c'était un peu long, mais ça me passionne.
C'était tellement passionnant. J'ai envie de prendre plein de notes. J'ai hâte de réécouter cet épisode déjà. J'ai une amie qui dit qu'elle appelle la discipline la douce-cipline.
Ah, génial.
Ouais, j'ai trouvé ça trop beau parce que c'est vrai que pour moi, je pense que rien ne pousse si on met la pression, si on est malveillant, si on est dans cette voilà flagellation, alors que si on est doux, bienveillant, si on s'accompagne soi, il y a possibilité de changement. Et pour la petite histoire aussi, moi, j'ai une pratique de méditation tous les matins. Et au début, c'était 15 minutes. Et là, depuis quelques mois, c'est plus 5 minutes. Et j'en parle à ma mère. Et je sens que quand je lui dis, je suis un peu dépitée, je suis là, je médite plus que 5 minutes. Et elle me dit, oui, mais tu médites 5 minutes. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien parce que je me suis dit, mais oui, en fait, je m'assois. Et même si c'est que quelques minutes, ben, je suis là, en fait. Et voilà, et donc de revaloriser ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et autre chose que tu as dit aussi que j'ai adoré, parce que j'avais l'impression que tu parlais de moi, c'est par rapport au collage d'étiquettes. Et pendant longtemps, j'ai dit que j'étais pas organisée, parce que je pense que véritablement, à l'époque, ben, je l'étais pas trop. Mais en fait, j'ai appris et j'ai mis plein de petites choses en place. Et aujourd'hui, j'essaye de pas continuer à me coller cette identité, parce que j'ai eu l'habitude de me la coller pendant tellement longtemps, alors qu'au final, maintenant, en fait, je suis organisée. Et j'essaye au plus possible quand les gens me disent « Ah, mais t'es vachement organisée », de pas leur dire le récit narratif que j'ai construit pendant tant d'années et auquel je suis confortable en me disant « Ah non, moi, pas du tout ». Non, c'est vrai, je suis organisée. Et je te le dis là maintenant, mais pendant des années, pour moi, c'était lunaire de m'identifier à ça, alors que si, j'ai fait ce changement, c'est 1% en essayant d'être bienveillante avec moi. Donc, je te remercie pour avoir mis tout ça en lumière.
Et comme tu le dis, je pense que on peut être et devenir tout ce qu'on veut du moment que ça a du sens pour nous. Et beaucoup de gens sont pas organisés ou des choses comme ça parce qu'en fait, ça a pas de sens pour eux. C'est pas prioritaire dans leur échelle de valeur, en fait. Leur échelle de valeur, ça va être plutôt justement la liberté, je sais pas, le partage ou quelque chose comme ça, et pas spécialement l'ordre, l'harmonie esthétique. Et en gros, si on se demande pourquoi on le fait, quelle est l'intention derrière, là tout d'un coup on peut mettre n'importe quelle habitude en place. Et c'est magnifique ce que tu disais, c'est qu'on voit vraiment bien comment la création de petites habitudes vient vraiment progressivement créer, enfin détruire déjà, une étiquette qu'on s'était collée, donc des conditionnements, des croyances limitantes. L'habitude elle-même modifie la psyché et nous prouve que ce qu'on a cru pendant des années, ce n'est pas vrai. Et des fois c'est même, on a besoin de la vie extérieure des gens, en fait on dit « Ah mais t'es super organisée !» Et moi la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais « Quoi ? Moi ?» Et donc ouais, je te rejoins. Mais j'ai été organisée pour des choses qui comptaient. Mon travail, ça comptait énormément pour moi. Enfin, pas quand j'étais infirmière d'ailleurs, mais en tout cas depuis que je suis prof de yoga. Maintenant, j'organise des trucs pour des retraites, pour des groupes de 15-16 personnes. Jamais j'aurais cru être capable de faire ça en fait. Donc voilà, on est toujours plus fort qu'on le pense, mais on est surtout aussi jamais vraiment ce qu'on croit. On peut être toujours autre chose en fait. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a vraiment confortée cette année. J'ai une vision pour moi dans ma vie et je me rends compte qu'en fait, à travers la lecture des textes, etc., que c'est la chose la plus puissante qu'on a en tant qu'être humain, en fait. La vision qu'on a de ce qu'on pourrait être depuis enfant, le côté un peu ultime, absolu, où on se sent un peu insatisfait souvent parce qu'on sait, en fait, qu'on est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on s'est rajouté comme blessure et comme étiquette à travers les années, et que ça, c'est réel, en fait. La vision qu'on a pour nous, c'est notre chemin. Enfin, c'est ça, en fait. Et c'est pas une lubie, c'est pas faux, c'est ça. Donc, voilà, si on s'imagine être organisé, si on s'imagine être prospère, si on s'imagine être vive dans un certain cadre, etc., c'est notre sadhana, elle peut nous aider en fait à aller vers ça, à tendre vers nos rêves.
Et dans cette désidentification à l'étiquette, je trouve qu'il y a quelque chose qui est inconfortable parce que comme par exemple pour voilà, je suis pas organisée, j'ai été tellement pendant longtemps attachée à cette croyance-là que ça formait mon identité. Et du coup, quand j'arrêtais de dire « je suis pas organisée », quand je mettais un peu ma main devant la bouche, je me disais « waouh, qui est-ce que je suis en train de devenir ?» Et ça, je sentais que ça pouvait me faire peur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se complaisent dans des identités qui, au final, les gardent coincées dans quelque chose qui est inconfortable parce que oh, « qui est-ce que je suis en train de devenir si je ne suis plus qui je pensais être ?»
Tellement. Et je le vois, les résistances, hein, d'ailleurs, les exercices dans la sadhana qui font le plus réagir, où il y a le plus de résistance, c'est vraiment tout le travail sur la vision, donc savoir ce qu'on veut, et le travail sur les croyances limitantes, sur l'identité. Et donc c'est pour ça qu'en fait, quand on dit « oui, j'aimerais avoir de bonnes habitudes de vie », il y a un énorme travail autour plutôt de la relation à soi, des peurs, de l'identité, de l'ego. Et comme tu dis, il y a en fait une petite mort intérieure, il y a un enfant blessé qui, voilà, qui n'est plus là, il y a quelque chose qui part en fait. Et du coup, c'est toujours un petit deuil, même s'il est inconfortable, même si c'était peut-être une relation toxique, c'est jamais facile de couper un lien. Donc ce qui, moi, je trouve rassurant aussi, c'est de se dire que, un peu dans la philosophie du taoïsme, hein, donc de la médecine traditionnelle chinoise, on a forcément les deux. Donc si on est organisé, c'est aussi qu'on est désorganisé. Si on est généreux, c'est aussi que des fois on est égoïste. Si on est bienveillant, c'est aussi que des fois on est un vrai con. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée qu'on a forcément les deux.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, parce que de dire qu'on est organisé, c'est encore une autre étiquette. Mais en tout cas, merci pour ce partage et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à vous poser la question « Qui allez-vous être si vous ne vous identifiez plus à qui vous pensez être juste maintenant, à vous défaire de cette croyance limitante, que ça soit « mais non, mais moi je suis pas assez bien », dans lequel on est très confortable. » Et souvent, il n'y a pas forcément de mots après ça, mais il y a juste une énergie qui peut enfin s'exprimer et qui va être plus libre en fait. Juste de l'énergie qui peut se libérer. Et ça, c'est chouette. J'ai encore une question, toujours dans ces mêmes thématiques, parce que vraiment, elle revient, il faut absolument que je la pose. C'est par rapport à notre pourquoi, qui pour moi régit tout en fait. Et comme tu l'as dit, tu le vois chez les gens que tu accompagnes, les gens qui arrivent à avoir une sadhana durable, c'est les gens qui ont un pourquoi qui est fort. Moi, je trouve ça super important. En fait, moi, tout ce que je mets dans ma vie en place, c'est pour ce pourquoi. Comment est-ce qu'on le trouve, ce pourquoi? Tu vois ce que je veux dire?
Je vois très bien. Alors, comment on trouve son pourquoi? Ben ça, c'est vraiment, tu vois, dans le programme, ça mérite tout un module. Tellement il y a de questions. C'est vraiment, ça va être de se poser les bonnes questions. Entre autres, dans la consultation individuelle, il y a 9 questions particulières que je pose qui aident à clarifier ses objectifs. Et son pourquoi, au-delà de ça, hein, quand on n'est pas accompagné, il va de toute façon nous être montré par notre vie. C'est-à-dire que toutes les épreuves, que ça soit voilà, des ruptures, des deuils, tout ce qui va nous challenger, va nous montrer au fond notre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et donc, quand je dis non à ce métier, quand je dis non finalement à ce type de relation, quand je vois qu'il y a quelque chose qui me blesse et qu'il y a quelque chose d'autre qui m'inspire, déjà, ça me donne une guidance de vers quoi je veux aller. Et au niveau de la sadhana, de la pratique de yoga, on peut aussi le poser à son intuition, se dire mais pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je fais du yoga? Pourquoi est-ce que je paye un abonnement, etc.? Qu'est-ce que je veux derrière ça? Et au-delà de ça, on peut se poser la question de pourquoi c'est important. Et se la reposer cette question plusieurs fois. Ok, ça c'est important pour moi parce que je veux de la sérénité. Ok, mais pourquoi tu veux de la sérénité? Ben parce que j'ai envie d'être sereine, pour être bien avec ma famille ou pour inspirer le monde. Ok, donc c'est important peut-être pour moi de contribuer. Et pourquoi c'est important pour moi de contribuer en fait? Et voilà, en faisant aussi, c'est vraiment que des questions qui vont progressivement m'amener à comprendre qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, pourquoi je fais tout ce que je fais en fait. Car tout tourne autour en général de 3 principales valeurs. Et au fur et à mesure de ça, quels sont mes freins? Qu'est-ce qui m'en empêche? Comment je saurais que j'ai atteint ce que je veux? Parce que souvent on n'a pas de limite en fait à ses rêves. On dit ok, je veux être riche, je veux être beau, je veux être serein, mais en fait pour moi c'est quoi? À quel moment je sais que j'ai atteint ça? Parce que sinon, en fait, j'ai l'impression de jamais l'atteindre dès qu'il y a un moment où c'est très conceptuel. Donc, à quel moment je vais être fière de là où je suis arrivée, en fait? À quel moment je vais me dire, ah, mais en fait, c'est bon, je suis arrivée, en fait, à ma sérénité, à ma prospérité, à ma connexion, à mon alignement. Donc, c'est franchement la question du pourquoi, y a beaucoup de choses à voir. Même toutes les expériences qu'on a, elles sont pas là pour rien. Alors, ça, c'est vraiment un truc très, très philosophique aussi du yoga. C'est tout ce que mon âme est en train de vivre, déjà, elle peut le surmonter, parce qu'il y a ce qu'elle a choisi d'expérimenter dans cette vie, c'est pour une certaine raison. Et les leçons que je vais en retirer, c'est du nectar, c'est de la pépite. Donc c'est souvent même des cadeaux mal emballés, mais souvent les plus gros chocs émotionnels, les moments les plus difficiles de sa vie, ça peut à la fois bien sûr nous contraindre, nous cristalliser, mais ça peut aussi créer une fissure qui nous aide à voir autre chose en fait, à voir c'est quoi notre vrai sens. Parce que clairement, quand une maladie frappe à notre porte, quand on s'est pris une grosse baffe dans la figure, eh ben on repriorise, on se dit non mais en fait ce qui compte c'est ça. Et donc dans tous les cas, notre vie est là pour nous montrer notre pourquoi, notre dharma, ça, elle se déroule pour nous, on n'a pas besoin non plus de la chercher, c'est la vie qui s'en occupe. C'est vrai que la sadhana ça aide parce qu'on a du temps d'introspection. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que souvent les gens répètent les mêmes erreurs parce qu'il n'y a pas de temps de recul. On travaille comme des acharnés, on a des vies de famille qui nous épuisent, on a, voilà. Et donc en fait, le temps de réflexion, il est tellement restreint qu'on n'a même pas le temps d'intégrer les leçons de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a autant de changements souvent dans les retraites de yoga. C'est pas parce que c'est magique ce qu'un prof a donné, mais c'est qu'en fait, les gens sont extraits de leur quotidien et tout d'un coup, en fait, ils ont ce petit temps de réflexion. Donc je pense que le pourquoi, il se trouve aussi avec ces temps de solitude, de silence, d'ennui. Et voilà, d'arrêter de surcharger notre mental de distraction, ça va aider aussi à se connaître et à connaître son pourquoi.
Merci pour ça. J'ai envie de te poser des questions maintenant autour de la pratique du tantra, puisque c'est une pratique qui est souvent associée à tout ce qui va être pratique de la sexualité sacrée, mais je crois que le tantra, c'est beaucoup plus large que ça. Donc pour celles qui ne connaissent pas du tout le tantra, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors là aussi, ça pourrait mériter tout un podcast, je vais essayer d'être hyper concise. Il y a quand même une grosse... Enfin, en fait, le mot tantra, maintenant, c'est très galvaudé. Ça a subi plein d'interprétations. Il y en a qui confondent tantrisme, tantra, hatha yoga. Moi, ce que j'enseigne, c'est du tantra, hatha yoga. Donc, en gros, pour faire très très simple, le tantra, hatha yoga, c'est tout simplement la connaissance de l'énergie. Comment mes postures impactent mon énergie. Par exemple, le système des chakras, qui est très connu, ça vient du tantra. Donc à la base, il n'y a pas du tout d'histoire de sexualité sacrée. En fait, à la base, l'idée du tantra, c'est de tisser un lien, en effet, entre notre humanité et notre divinité, notre incarnation et notre aspect illimité. Donc on parle de Shakti, Shiva, de la Kundalini, de l'essence féminine, masculine, de l'union des deux, et certains ont fait des amalgames en mode « bon ben, on n'a qu'à faire l'amour ensemble et on va s'éveiller ». Alors je ne dis pas du tout que c'est pas beau d'explorer ça, c'est magnifique d'explorer sa sexualité sacrée, de recréer vraiment de la connexion, de s'intéresser à tout ça, c'est magnifique. C'est juste que ce n'est pas ce qu'est le tantra hatha yoga. Le tantra hatha yoga, c'est à la fois une philosophie, donc une philosophie qui dit que la vie est sacrée. Enfin c'est toute la philosophie en fait qu'on peut trouver à la base dans les textes de yoga en fait. Et ça va être aussi tout un set de méthodes pour incarner cette philosophie. Pour que ça soit pas juste des beaux concepts comme ça qui sont dans des livres, mais que vraiment la personne incarne ce que c'est que la non-violence, ce que c'est que le contentement, ce que c'est que l'union, et avec une méthodologie précise. Si quelqu'un a besoin d'ancrage et de stabilité, il ne va pas faire les mêmes postures, les mêmes respirations, les mêmes méditations que quelqu'un qui a besoin de vitalité, d'expansion, qui a déjà maîtrisé son prana, son énergie vitale, et qui veut au contraire développer certains dons, par exemple. Donc vraiment, le tantra, c'est à la base, c'était pour aider les personnes à s'éveiller en une vie. Donc il y a les pratiques respiratoires, les pratiques méditatives, les postures. Il va y avoir les yantras, donc toutes les formes géométriques sur lesquelles on peut méditer. Il va y avoir le système des chakras, il va y avoir les mantras, donc les chants sacrés. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique en yoga peut se référer, en fait, entre autres, à cette branche du tantra. Après, l'histoire du yoga, c'est des fois un petit peu flou sur comment tout est... Enfin, chacun s'interprète, en fait. Donc, après, c'est transmis, puis retransmis. Comme par exemple, en Occident, on commence toujours par une méditation. Enfin, très généralement, les cours de yoga commencent par une méditation-respiration et finissent par un shavasana. Traditionnellement, dans le tantra, c'est plutôt posture, respiration, méditation. Pour gérer le prana d'une certaine manière. En fait, quelqu'un qui fait du tantra, c'est quelqu'un qui maîtrise son énergie. Donc, son mental est en général très agité. Donc, si mon mental est agité, il faut d'abord que j'utilise le corps pour travailler mon énergie, mon prana. Une fois que mon corps a travaillé mon énergie, mon prana, j'utilise ce prana pour travailler mon esprit. Et par l'esprit, je le travaille dans la méditation. Et là, du coup, je viens atteindre les qualités sublimes de l'esprit, de la clarté, de l'unité, etc.
Je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit. Certains dons, c'est quoi ?
En fait, chacun va avoir, on va dire, son set de petites étincelles pour offrir au monde ce qu'il a de précieux. Certains vont être très pédagogues, d'autres vont avoir une très bonne intuition, d'autres vont être très créatifs, d'autres vont avoir des capacités à s'exprimer ou à chanter ou du magnétisme, etc. Et en gros, en fait, dans le tantra, en général, on commence par des pratiques qu'on appelle lunaires. C'est des pratiques qui permettent de désengorger les trois premiers chakras des empreintes karmiques, donc de tout notre passé traumatique, à nous, mais aussi trauma générationnel, transgénérationnel, etc. Donc du coup, une fois qu'on vient éliminer tout ça, eh bien, on peut voir un peu plus clairement ce qui est nous et on peut développer plus facilement nos qualités. Et en fait, l'énergie, quand on commence à la faire monter en soi, quand on commence à la purifier, eh bien, ça vient naturellement, en fait, c'est comme si c'était de l'électricité, ça vient enfin allumer la lampe qui attendait tant qu'elle soit allumée, en fait, qui était déjà là, mais elle n'avait pas encore l'énergie qui allait jusqu'à elle. Parce que souvent, c'est bloqué avec les peurs, les blessures. Donc tout le travail d'auto-guérison, bien sûr, est fondamental là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Chacun va avoir des caractéristiques différentes. Et au fur et à mesure qu'on pratique, on sait qu'on a une bonne pratique de yoga quand on sent qu'on développe certaines qualités chez soi. que notre vie devient un peu plus alignée et que ça devient un peu plus fluide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, hein, mais on sent que c'est ça, en fait. Il n'y a pas de doute, c'est juste ça, en fait. Bon, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais c'est un
peu... Si, complètement. Je voulais repasser à quelque chose d'un petit peu plus modern life. Tu viens d'écrire un livre.
Oui.
Où tu donnes plein de conseils pour mieux gérer son stress. Mm-hmm. Quel serait un conseil, tu dirais genre le top advice que tu pourrais donner pour mieux gérer son stress?
Alors le top advice, c'est toujours plein de causes concomitantes, mais en gros, beaucoup de gens ont du stress car leur système nerveux est dérégulé. Donc aller vers la régulation du système nerveux par des pratiques qui l'aident, donc ça peut être tout ce qui est pratique somatique, tout ce qui est pratique corporelle, thérapie corporelle, ou si on va avoir un thérapeute par exemple, un psychologue qui est qualifié dans ça. Je pense que la thérapie peut faire énormément du bien si on a un stress vraiment généralisé. Tout le monde n'a pas les mêmes doses de stress. Donc je ne veux pas donner des astuces non plus trop basiques, mais tout ce qui va être de l'ordre de la connexion au corps et de la guérison du corps émotionnel, ça va être primordial, sinon les gens vont avoir l'impression de ne jamais y arriver. Et pour finir, il y a quelque chose qui m'est venu dernièrement, d'ailleurs je suis un peu déçue de ne pas l'avoir mis dans mon livre du cahier anti-stress. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous stresse profondément tous, c'est au final un vrai manque de lien profond, de communauté. En fait, j'ai l'impression que l'isolement, on fait beaucoup de choses seuls, on fait nos business seuls, on est entrepreneur, bon, à la limite, on délègue, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait seuls. Et si jamais on n'a pas un sentiment de famille ou de choses comme ça, si on n'a pas l'impression d'être relié ou d'avoir du lien sécure avec les gens, eh bien ça cause beaucoup de stress, en fait. Parce que on va être stressé par les informations, on va être stressé pour la planète, on va être stressé pour notre travail, on va être stressé pour tout, parce qu'au fond, on n'est pas sûr que s'il nous arrive quelque chose, on va devoir se débrouiller tout seul avec notre souffrance, en fait. Donc, savoir qu'on peut compter sur d'autres personnes, créer du vrai lien, que ça soit avec un groupe de yoga, avec des amis, avec peut-être si on va à l'église, peut-être si on va faire un groupe de sport, je ne sais pas, mais avoir l'impression que voilà, si jamais ça tourne mal, j'ai quelqu'un qui est là pour moi. Et ça, je pense qu'en fait, c'est assez instinctif. Quand on est enfant, on sait qu'on a besoin de quelqu'un pour survivre. Et quand on est adulte, tout d'un coup, on devrait ne plus avoir besoin. Et donc, je pense que l'isolement, on parle souvent de l'isolement des personnes âgées et tout, mais en fait, on est dans une société où on se sent un peu isolé, je pense. Et je pense que ça, entre autres, ça rajoute du stress, parce qu'on a beau méditer, on a beau respirer, etc. Si on tourne en boucle avec sa confusion, avec soi-même, au bout d'un moment, il y a un certain stress, j'ai l'impression, qu'il s'installe.
Je te rejoins tellement là-dessus et moi-même, je sais que c'est ça. Quand je passe du temps trop toute seule, que je bosse trop toute seule, et ben hop, je suis dans mes pensées et en fait, tout s'embrouille. Alors que dès que je passe du temps avec des gens, hop, déjà, il y a plein de choses qui se sont envolées. Je me dis, mais attends, mais pourquoi t'étais dans cet état il y a juste 2 jours alors qu'en fait, il n'y avait pas... Ah, il fallait juste sortir voix du monde et être dans le moment présent, en fait. Ça nous ramène aussi à ce moment présent.
Complètement.
Qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde sache?
Je pense que j'aimerais que tout le monde sache, en fait, que tout le monde voit au fond à quel point ils sont merveilleux. Parce que c'est, moi, je le vois, en fait, franchement, j'aime les gens avec qui je travaille en yoga. En fait, j'ai l'impression de percevoir à quel point ils sont beaux et à quel point ils le voient pas. Et après, moi, c'est pareil, hein. Mais j'aimerais que tout le monde se rende compte à quel point, à la base, on est magnifique. À la base, on est amour. À la base, on a envie du mieux. Et tout le reste, c'est juste des blessures. Donc, il n'y a pas de culpabilité, de haine de soi à maintenir à l'excès. Il y a se tourner vers soi, se dire « Ok, quel enfant intérieur est en train de crier en moi là? Qu'est-ce que j'ai besoin de soigner ?» Parce qu'en fait, au fond, quand c'est soigné, quand c'est aimé, c'est juste magnifique pour tout le monde. Et donc, il n'y a pas de « on ne peut pas changer », il n'y a pas de choses qui sont inéluctables, qui vont continuer constamment. Si quelqu'un est dans la souffrance, ça peut s'arrêter en fait, ça peut évoluer. Et qu'ils ne sont pas tous en fait. Ils ne sont pas leurs émotions difficiles, ils ne sont pas les challenges qui leur arrivent. Ils sont la lumière qui peut accueillir tout ça, mais voilà, il faut avoir la conscience que ça existe en fait.
Magnifique, merci beaucoup. Je crois que tu vas finir par une méditation, c'est ça?
Eh bien ouais, on peut faire une petite méditation. M'avait proposé cette idée de vous faire découvrir une méditation tantrique. Là aussi, c'est un sujet très vaste, donc normalement une méditation tantrique, ça se fait à la fin d'une pratique assez complète de respiration, de pratique posturelle, etc. Mais on pourrait faire une petite méditation qui va à la fois nous ancrer et à la fois nous aider à développer des qualités un petit peu justement d'intuition, entre autres au niveau du chakra ajna, du troisième œil, en précisant que si jamais on n'a jamais, on va dire, stimulé cet espace, c'est possible que l'énergie n'y soit pas très sensible et qu'on ne le sente pas forcément. Donc c'est pour ça que voilà, en général, ça peut demander un petit peu de pratique, mais ça peut être une bonne initiation.
J'adorerais. Donc évidemment, vous ne faites pas ça si vous êtes en train de conduire ou ou autre chose d'important, mais sinon, c'est parti.
Alors on va commencer déjà à s'installer assez confortablement. Donc si vous êtes assis ou allongé, mettez-vous dans une posture où vous avez au moins le dos qui est droit. Et vous pouvez facilement sentir la respiration qui n'est pas contrainte. Vous sentez que vos yeux se déposent, vous avez les yeux qui se ferment et vous pouvez un peu vous intérioriser un instant. L'intériorisation, c'est déjà juste, je sens ce qui se passe, comment je respire. J'inspire, je sens que j'inspire. Et j'expire, je sens que j'expire. Je commence un peu à observer que dans le souffle, il y a à l'expiration ce mouvement de retour vers soi où les côtes reviennent vers l'intérieur, le ventre revient aussi un peu vers l'intérieur et c'est comme si toute mon attention était appelée un peu moins vers l'extérieur et au contraire un peu plus dans mon intériorité. Et si on sent qu'on est un peu chargé, on peut prendre 3 grandes respirations, on peut inspirer tranquillement par le nez. Et on peut vider à l'expiration, éventuellement bouche ouverte, ce qu'on sent être un peu lourd, un peu chargé en soi, qu'on a envie de libérer. On laisse alors un peu se calmer, ce qui est présent. On observe. Et on va commencer doucement à avoir une interaction avec notre souffle, créer du lien. Donc déjà, on le ressent dans les poumons ou dans le ventre ou dans les narines. Et souvent, quand on vient contrôler le souffle, on peut sentir que ce n'est pas forcément naturel. L'idée, ce n'est pas de le contrôler, c'est de lui offrir de l'espace. On va lui offrir de l'espace dans notre corps. Et parfois, cet espace est fermé depuis longtemps. Donc très progressivement, on va ralentir notre souffle. Donc je vais donner ici un décompte. On va venir faire ce qu'on appelle Mahat Yoga Pranayama, respiration du yogi. On vient descendre l'air, mais en fait le prana, l'énergie, tout en bas de notre ventre. Et on continue de monter dans le milieu du ventre, puis dans le milieu des poumons jusqu'en haut des poumons. Et dans ces 3 sections, l'air devient très fluide, s'écoule un peu comme une rivière. Et on remplit ces petits espaces comme si vraiment on allait amener de l'énergie, de la lumière, dans nos viscères, dans nos poumons, dans l'extérieur, l'arrière, de nos côtes, de notre dos, jusqu'en haut de la gorge, et on s'ouvre vraiment à cette respiration. On peut alors aller sur un décompte de 6 d'inspire, 6 d'expire, si c'est trop lent ou trop court pour vous, vous adaptez. Doucement ensemble, on expire, on vide les poumons. Et on inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire 1, 2, 3, 4. 5, 6. Et continuez à votre rythme. Peut-être que vous avez senti que vous deviez aller plus lentement ou faire une respiration plus courte. Et sentez progressivement que votre air monte et descend comme un mouvement lumineux du bassin jusqu'au sommet du crâne. Cela peut être dans un ordre particulier pour vous. Peut-être que quand vous inspirez, vous sentez l'air qui descend du bassin au sommet du crâne et à l'expire l'inverse. Ou peut-être que c'est l'opposé. Juste observez ce souffle qui monte et qui descend comme un filet ou une boule lumineuse qui vient parcourir la colonne. Et venez sentir ce souffle qui porte en lui toute l'énergie dont vous avez besoin toute la décharge dont votre corps et votre esprit a besoin. Et je vous invite alors à sentir à l'inspire et à l'expire le mantra du souffle qui est Soham. So-S-O, Ham, H-A-M, qui veut dire « je suis ». Dans l'inspire, vous entendez à l'intérieur de votre corps le son « So ». Et à l'expire, le son « Ham ». Et vous le sentez, cet inspire saut tel une vague régulière qui à l'expire ham vient vous amener délicatement au bout de l'expiration, même peut-être vous allez sentir au bout de cet expire cet aspect d'inaction avant de réinspirer. Vous sentez ces points d'immobilité parfaite au bout du ham. Comme si au fond du ham, vous étiez vraiment porté dans cet espace calme, très silencieux, très doux à l'intérieur de vous. Et ainsi, votre prana revient à la fréquence de l'harmonie du monde, de l'univers, de toute la création. Et alors vous pouvez progressivement laisser votre attention se porter à présent sur l'espace sacré au-dessus des deux sourcils. Environ un pouce au-dessus des sourcils, la porte d'entrée du troisième œil. Et en plein milieu de votre crâne, le centre ajna. Vous pouvez sentir le devant de votre front et l'arrière de votre tête comme deux points sur lesquels on vient doucement appuyer telle une acupression. Peut-être que c'est assez peu sensible, assez neutre si vous n'avez pas l'habitude. Observez l'espace qui sépare ce point au devant du front et à l'arrière de la tête. Comme si vous traciez une ligne entre ces deux points. Et sentez à présent votre tempe gauche et votre tempe droite comme si on a posé une légère pression douce. Tempe gauche, tempe droite. Et l'espace qu'il y a entre ces deux points. Comme si une ligne tracée, lumineuse, les séparait. Et entre ces deux points, à la croisée de ces deux lignes, se trouve une lumière douce, ou de l'obscurité pour certaines personnes. Vous pouvez soit observer la lumière, soit observer l'obscurité. Et depuis là, laissez la respiration revenir plus naturelle, sans effort. Et commencez à l'inspiration, à venir remplir de lumière toute la cavité crânienne, comme si c'était un aquarium, comme si vous remplissiez un espace vide, et à l'expiration, poussez cet air par ce centre du troisième œil, loin vers l'horizon, dans une ligne horizontale, loin, 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 à l'infini au-devant de vous. À chaque inspiration, vous laissez l'air remplir toute votre boîte crânienne de lumière, comme envelopper les pensées résiduelles, et dans l'expiration, vous laissez l'air tel un faisceau lumineux aller loin au-devant, passer par ce centre du troisième œil, dans une continuité tout au bout, tout au bout, tout au bout de l'expiration, loin vers l'infini. Pour terminer, laissez à présent ce mouvement se faire dans le don et la réception. Vous recevez à présent à l'inspire directement cette lumière de l'horizon lointain qui vient remplir toute votre boîte crânienne dans l'inspire et à l'expire qui repart vers cet horizon. Une vague d'énergie qui vient de loin vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, toujours dans ce point à l'infini. Et peut-être qu'à un moment donné, dans ce chemin-là, votre respiration devient très douce, presque imperceptible. Et juste vous laisser l'énergie aller et venir, et puis ce point, remplir votre boîte crânienne de lumière. Et à l'expire, allez au bout du souffle loin vers l'horizon. Et simplement restez là, un instant sans avoir rien d'autre à faire. N'avez même plus besoin de visualiser, juste vous restez un instant dans le silence. Confortable du vide et de la lumière. Un vide plein de lumière. Ici, si vous avez un message particulier à recevoir, laissez-le venir. Ici, c'est un espace où vous pouvez rester aussi longtemps que vous souhaitez. Si vous souhaitez revenir doucement au moment présent, à là où vous êtes, là où votre corps a résidé pendant ce voyage, revenez dans les sensations du corps. Vous pouvez respirer un peu plus profondément pour redynamiser les poumons. Si vous sentez alors que dès que la conscience s'installe dans le corps, il a envie de bouger, que ce soit en étirant la nuque ou en étalant les jambes ou en faisant des petits mouvements, laissez-le faire. Jusqu'à réouvrir tranquillement les yeux.
Merci beaucoup.
C'est une petite initiation. C'est, voilà, c'est une petite partie. Mais si on le fait avec tout ce qu'il peut y avoir en amont, ça peut être assez, assez puissant.
Waouh. C'était absolument incroyable. Absolument incroyable. Je serais vraiment très curieuse pour celles et ceux qui ont fait la méditation avec nous, que vous nous disiez sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé pour vous. Moi, j'ai fait un voyage juste fantastique. Parfois, j'avais un peu mon mental qui était là en mode « Ah, il faut que je gère l'enregistrement. » Mais en fait, et même parfois, je partais tellement loin que je me disais « Waouh, Anouk, tu t'es partie là !» Et je me disais « Wow, c'est chelou ce qui est en train de se passer. » Et au moment de recevoir le message, j'ai reçu des choses très très fortes. Et aussi, j'ai senti, ça m'a vraiment émue. J'étais là « Waouh, tu vas pas pleurer sur le podcast !» Mais j'ai ressenti à quel point j'étais aimée. J'ai ressenti un amour de, je sais pas, la vie, enfin, voilà, ça me bouleverse, quoi. Donc, je te remercie infiniment, c'était hyper puissant, enfin, c'était, je sais pas combien de temps on a voyagé, mais peut-être juste 10 minutes, ouais. Alors... Merci beaucoup.
Ouais, je suis ravie. Ouais. Et c'est vraiment le soham, c'est un retour à l'unité, un retour à l'amour, donc c'est génial que tu aies pu le ressentir.
Mayana, je me sens vraiment très reconnaissante d'avoir pu t'enregistrer. Je savais que tu étais une lumière déjà, mais le fait de pouvoir converser avec toi n'a fait que confirmer et je suis encore plus fascinée par qui tu es. Tu as à la fois une grande connaissance, tu es hyper instruite et on sent que en fait tu es dans ton dharma, que tu as trouvé la façon dont tu avais envie d'accompagner les gens et on sent que bah, ça dure parce qu'en fait c'est vrai et ça je trouve ça absolument fantastique. Donc je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu es. Évidemment, on mettra en lien dans la fenêtre de l'épisode tous les accès à que ce soit tes programmes en ligne, tes cours de yoga ici dans le Pays Basque, et puis ton livre et ton compte Instagram où tu partages de magnifiques choses. Je suis toujours très inspirée par ce que tu postes. Et pendant l'épisode, je disais oui, en France, on n'a pas forcément de grands professeurs ou de grandes gourous pour recevoir tous ces enseignements, mais si, il y a des personnes comme toi qui partagent tout ça. Et donc, je te remercie vraiment infiniment pour cette conversation et tout ce que tu nous as donné aujourd'hui.
Ah ben je ne peux que être extrêmement reconnaissante et flattée et merci, c'était j'adore parler de ces thématiques, donc merci beaucoup de m'avoir offert cet espace et merci beaucoup pour ce que tu crées parce que comme je le disais, je sais pas si je le dis en offline ou si je l'ai dit dans le podcast, mais je trouve que c'est très beau la manière dont tu offres le yoga aussi avec ta perspective, avec ton originalité, avec l'océan, avec j'aime vraiment, je trouve que quelle que soit l'approche avec laquelle on va dans le monde spirituel, il faut vraiment qu'on puisse offrir différents spectres, différentes vues et la tienne, je ne connais personne qui l'a fait comme ça et donc je suis ravie, je suis vraiment vraiment ravie de cet échange, ravie que tu aies pu ressentir ça dans la méditation et vraiment c'est tellement puissant, tellement, tellement puissant ces méthodes que enfin, merci, vraiment infiniment. Merci même pour ta communauté, pour tout ce que tu fais et pour offrir des partages comme ça de qualité. Je sais aussi le travail que ça peut demander, donc merci à toi d'être aussi investi pour tout le monde et d'offrir ça au monde. Donc je suis ravie d'avoir pu en faire partie aujourd'hui.
Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. J'espère que l'épisode t'a plu, que tu y as trouvé des conseils inspirants et motivants pour mieux naviguer sur l'océan de ta vie. N'hésite pas à venir nous voir sur Instagram pour nous dire ce que tu as le plus appris lors de cette conversation. Quels ont été tes Eureka Moments ? De mon côté, j'ai vraiment adoré qu'elle ait mis en lumière comment est-ce qu'on change une habitude. Et puis, évidemment, dans cette méditation, j'ai ressenti tellement de choses de ouf et des messages. Et ça m'a vraiment donné envie de pratiquer avec Mayana, je sais pas vous. Si tu as apprécié le podcast, une façon simple de me soutenir, c'est de te rendre sur l'application Apple Podcast ou Spotify et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit si l'application le permet. N'oublie pas de t'abonner pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Comme toutes les semaines, ça a été un grand plaisir d'avoir été dans tes oreilles, my dear. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que tout est possible. Crois en toi et keep going beautiful. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, où que tu sois, et je te dis à la semaine prochaine.